n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
C'est donc l'heure du journal de la philo. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors le thème du festival Cité Philo cette année étant « Dire et faire », vous vous intéressez cette semaine à ce qu'est une prise de parole.
Oui, et en particulier aux prises de parole, alors pas forcément féministes, mais féminines dans l'histoire de la philosophie. Elles sont assez rares pour être marquées. En général, on s'en tient à Simone de Beauvoir, Simone Veil ou Hannah Arendt. De la même manière qu'on parle d'une libération de la parole dans l'espace public, il serait temps de libérer la parole dans l'espace philosophique et d'entendre d'autres voix que celles auxquelles nous sommes accoutumés, avec toutes les questions bien sûr que ça leur implique, quelle part du sexe ou du genre imprègne vraiment un discours, comment donner à entendre d'autres paroles, des voix différentes dans le champ philosophique, ou encore, et c'est ma question du jour, comment faire pour écouter, donner à entendre une parole qui se fichait d'être entendue, en tout cas qui se fichait d'écouter celle des autres.
How does, quote, I fit into the philosophy of objectivism? How does objectivism relate to me, the individual? What does it do for me?
Are you a human being?
Mm-hmm.
Well, then it relates to you. It tells you how to lead your life and how to achieve things, how to be happy. It tells you the fundamental principles by which you can make your own choices. Above all, it tells you that you have the means to make these choices, that your mind is valid, that the reality you perceive really exists, and that is epistemology.
Alors hier, Géraldine, vous nous avez fait écouter Angela Davis. Qui est la voix que nous entendons ce matin ?
Alors c'était la voix de Ayn Rand. Alors Ayn Rand, c'est un cas pour moi, petit portrait d'elle. Ayn Rand est née en 1905 à Saint-Pétersbourg. Elle est morte à New York en 1982. Elle reste méconnue en France, quoiqu'il faille noter l'excellent livre de Stéphane Legrand paru sur elle il y a 2 ans. Elle est une figure incontournable aux États-Unis, dont les textes sont presque autant lus que la Bible, inspirant Donald Trump, les libertariens ou les héros de la série Mad Men. Ses romans, La grève et La source vive, sont des best-sellers et révèlent l'essence de sa philosophie, l'égoïsme rationalisé et objectivé. Pour Ayn Rand, femme au parcours incroyable qui a fui la Russie, traversé le monde, a rompu avec sa famille et a choisi elle-même son nom, cette pensée semble naturelle, elle semble émerger de sa personne même. On n'existe qu'en se faisant soi-même, qu'en ne suivant que son intérêt propre, au mépris des autres. L'altruisme est même pire que désuet pour une philosophe comme Ayn Rand, c'est une aberration, c'est quelque chose de dégoûtant. Vous voyez un petit peu le personnage, d'où ma question. Que faire de ces prises de parole féminines à qui l'on pourrait faire une place dans l'espace philosophique ici en France par légitimité, par curiosité, par sororité même, pourquoi pas, mais qui se fichait pourtant précisément d'être entendue par les autres? Comment faire de la place à quelqu'une qui n'en donnait pas? Faut-il lui en faire parce qu'elle est une femme?
Et c'est pourquoi vous parlez d'un cas. Ayn Rand.
Oui, exactement, car Ayn Rand incarne pour moi un problème typique que je rencontre souvent en lisant certains philosophes. J'aime les lire, les découvrir et pouvoir parler d'eux, faire entendre leurs textes alors même qu'ils me mettent mal à l'aise. Et Ayn Rand est pour moi le symbole extrême de ce malaise qui se joue en moi, de cette lutte intérieure entre admiration pour une femme dans un milieu d'hommes, intérêt intellectuel pour une théorie poussée à l'extrême et aussi dégoût moral pour ses implications éthiques. Car oui, je suis fascinée par Ayn Rand. Elle avait des petits yeux noirs perçants. Elle était méchante. Elle avait une obstination à élaborer une philosophie même bancale de l'égoïsme. Elle était quand même faite d'une conviction à toute épreuve. On parle par exemple beaucoup de la puissance des femmes puissantes. Mais elle était plus que cela. C'était une femme infaillible, terrible, forte, mais aussi donc détestable. Car oui, tout ce qu'elle dit est non seulement fragile sur le plan des arguments, mais détestable et même contraire au présupposé de ce que l'on appelle une libération de la parole, à savoir l'écoute, la solidarité, la justice. Comment faire alors avec ce type de discours? Comme n'importe quelle pensée un peu solide, elle doit avoir selon moi sa place, elle doit être entendue, lue, enseignée, critiquée aussi. Mais comment? De manière générale, voilà ma question. Comment faire avec ces prises de parole féminines aussi, dont on sait qu'elles anéantissent celles des autres et notamment celles des femmes?
Merci Géraldine. Est-ce que vous voulez réagir, Thomas Benatouil?
Ça m'a fait penser à Martha Nussbaum, qui n'a pas du tout les mêmes positions de Ayn Rand, et tant mieux pour elle. Si ça vous intéresse de lire une défense contemporaine de la théorie stoïcienne des émotions dont on a parlé tout à l'heure, il faut lire Martha Nussbaum, qui a proposé une telle théorie dans son livre de 2001, Upheavals of Thought. Je crois pas qu'il ait traduit, mais elle utilise Proust, Joyce et les stoïciens pour défendre cette conception des émotions dont on a parlé.
C'est noté, on mettra l'ouvrage en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et pour réécouter votre chronique, Géraldine, il suffit d'aller sur le site de France Culture, la page du journal de la philo.